Donc, la question de ce soir, en lien avec ce fameux paragraphe 4, c'est qui est le chef de l'Église universelle? Christ ou le pape? Bon. La réponse, l'Église universelle n'a qu'un seul chef suprême, qui est le Christ. Ce titre ne peut être transféré en totalité ou en partie à qui que ce soit d'autre. Donc, c'est le paragraphe un peu controversé de notre confession de foi. Donc, certains considèrent que notre confession serait mieux si elle n'avait pas ce paragraphe. Mais cette controverse ne doit pas nous faire passer à côté de l'importance de la doctrine qui est abordée, celle de la gouvernance de l'Église universelle. Est-ce que l'Église universelle a un gouvernement d'Église? Et qui gouverne cette Église? Donc, on va parler abondamment du gouvernement de l'Église locale, où c'est peut-être plus clair dans nos ecclésiologies congrégationalistes. Il y a un pouvoir qui est délégué dans une Église locale, il y a des anciens qui sont nommés, qui exercent une autorité, mais l'Église universelle, on a vu que c'est un concept qui est biblique, est-ce qu'elle a un gouvernement? Et donc, notre confession affirme deux choses. Positivement, elle affirme l'autorité exclusive de Christ, et négativement, elle nie l'autorité du pape et la prétention d'une autorité sur l'Église universelle par qui que ce soit d'autre que Christ. Donc, lisons le paragraphe 4. Le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'Église. En lui est investi par le décret du Père tout pouvoir pour l'appel, l'institution, l'ordre et le gouvernement de l'Église d'une manière suprême et souveraine. Le pape de Rome ne peut être chef de l'Église en aucun cas, pardon, en aucun sens, mais il est cet antichrist, cet homme de péché et fils de perdition, qui se dresse lui-même dans l'Église contre Christ et contre tout ce qui est nommé Dieu. Le Seigneur le détruira par l'éclat de son avènement. Donc, ce n'est pas la première partie qui est controversée, c'est la deuxième, ce qui nous est dit sur le pape. Donc, commençons d'abord avec le règne de Christ. On a dit que l'Église universelle était de nature invisible, qu'elle n'appartenait pas à une institution terrestre, elle est sur la terre, là, bien sûr, l'Église universelle, mais elle n'est pas organisée au sein d'une dénomination qui pourrait prétendre être l'Église exclusive de Christ, comme le font certaines églises, que ce soit l'Église catholique romaine ou l'Église d'Orient, on peut cette prétention d'être la vraie Église. Nous, nous disons, bien, la vraie Église, c'est tous ceux qui appartiennent à Christ, qui se retrouvent dans différentes églises, qui peuvent être des vraies églises, ou on peut être un vrai chrétien et pas appartenir à une vraie Église. Donc, on doit reconnaître que le gouvernement de l'Église universelle doit être de même nature que l'Église universelle. Si c'est une Église qui est invisible, qui n'est pas une institution terrestre, ben, ça va de soi avec son gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement d'Église qui est visible et qui est terrestre. Un gouvernement qui est céleste, parce qu'elle est gouvernée depuis le ciel par Christ, et invisible parce que c'est, comme on l'a vu, par l'agence du Saint-Esprit que Christ dirige son Église. Alors, sur cette Église universelle, le Nouveau Testament ne reconnaît qu'un seul chef. Il y a plusieurs textes qui pourraient être nommés, mais voici les principaux. Il y a Colossiens 1, 18, qui est cité par la Confession comme texte preuve. Colossiens 1, 18, qui nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Éphésiens 1, 20 à 23. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors on voit ici la nature céleste du gouvernement de l'Église universelle. Christ est à sa tête et il est au ciel. On n'a pas, il n'y a pas une adresse sur terre, il n'y a pas un bureau où on peut aller pour écrire au gouvernement de le, et on n'en a pas besoin parce qu'on a directement accès à Christ, le chef de cette Église. Mais donc, il est de nature céleste et non pas terrestre, et donc invisible. Et dans la même épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16, il est dit qu'on doit croître en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, grâce à lui, que tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Mais donc, c'est surtout au verset 15 où il est dit qu'il est le chef, c'est lui qui est le chef du corps. Et dernier texte, Éphésiens 5, 23 et 24. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc, il n'y a aucun autre qui est appelé chef de l'Église en dehors de Christ. Le Nouveau Testament n'attribue ce titre à personne d'autre. Aucun apôtre, aucun conducteur spirituel. Et l'Église a des conducteurs, a des serviteurs, a des ministres, à des gens qui sont en autorité, mais aucun n'est appelé chef de l'Église. Seul Christ porte ce titre-là. Et donc, comme Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne, que nul ne peut avoir deux maîtres, où il aimera un et haïra l'autre, bien, l'Église ne peut pas non plus avoir deux maîtres, ou deux chefs, ou deux têtes. Elle n'est pas bicéphale, et elle ne peut pas avoir deux époux. L'apôtre Paul dit qu'il a fiancé les Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11, 2, à un seul époux. Notez le langage monarchique que la confession emploie pour parler de l'autorité de Christ sur l'Église. Pas seulement l'idée qu'il est le chef, parce qu'on peut être le chef d'un parti, le chef syndical, le chef d'un groupe, mais ces chefs-là ne sont pas des rois. Mais Christ est le chef dans un sens royal. Il est le seul roi, d'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot « monarque ». Hein, c'est monos, un, et arché, chef, donc un seul chef. C'est ça, un monarque. C'est ultimement, le pouvoir réside dans un seul. Et donc, son pouvoir lui vient de ce que du Père a investi le pouvoir ou a été investi par le décret du Père. Donc, il y a un peu cette idée comme quand un monarque est couronné, on investit en lui par une cérémonie, l'État ou le peuple ou Dieu ou il y a une structure quelconque qui investit un pouvoir, une autorité dans son monarque, bien, par le décret du Père. Donc, il n'y a pas une autorité autre plus élevée que celle-là. C'est Dieu lui-même qui l'a établi pour être le roi de son Église. Et souvent, quand on parle de la royauté de Jésus, on l'envisage dans le domaine de l'eschatologie, hein, des choses qui touchent à la fin, qui touchent au retour de Christ, qui touchent à son règne eschatologique. Mais la confession de foi aborde la royauté de Jésus dans le cadre de l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, et pas la doctrine des choses dernières. Ça fait partie de la doctrine des choses dernières. Mais là où si on voit Jésus intronisé, assis sur son trône, c'est dans le contexte de l'Église. Qui est son royaume? Jésus règne souverainement sur tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui acceptent sa seigneurie, qui fléchissent le genou devant lui, qui le confessent comme étant leur roi, mais l'Église le fait. Et donc, l'Église est le royaume particulier de Christ et il la gouverne par sa parole. Après sa résurrection, Jésus dit qu'il a reçu tout pouvoir m'a été donné, Matthieu 28, 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus ici déclare qu'il a une autorité universelle sur la terre, dans le ciel, et qu'avec cette autorité, il va se constituer un peuple en annonçant l'Évangile par la bouche de ses disciples. C'est comme ça qu'il va bâtir son Église. Et ceux qui reçoivent cet Évangile, qui confessent, qui se repentent de leurs péchés, qui professent la foi en Jésus, reçoivent le signe de son appartenance par le baptême et ils entrent dans son ecclésia, dans son assemblée, parmi son peuple, dans son royaume. Et ceux-là doivent recevoir la gouvernance de Christ par sa parole. Ils sont enseignés à observer tout ce que Jésus a transmis aux disciples et que le Saint-Esprit allait leur rappeler selon la promesse de Jésus. Donc, vous voyez que son autorité royale l'amène à fonder directement une église sur la terre qui est son royaume. Quand on parle du royaume de Dieu, ça dépasse simplement les limites de l'église. Le royaume inclut l'église. Et l'église peut être appelée le royaume dans un certain sens, même si le concept de royaume est plus large. Et donc, le pouvoir de Jésus sur l'église ensuite est décliné en quatre éléments que la confession énumère simplement au paragraphe 4, mais ensuite développe dans les quatre paragraphes qui suivent. Il appelle l'institution, l'ordre et le gouvernement. Donc, il va appeler les disciples, et c'est le paragraphe 5 qui va développer cet aspect du pouvoir royal de Jésus par lequel il appelle les hommes, pour former au travers de ceux qui sont appelés des assemblées, des églises particulières. Donc, paragraphe 6, l'institution d'églises particulières. Troisièmement, il établit un ordre au sein de ces églises. C'est pas simplement qu'ils se sont rassemblés de n'importe quelle façon pour faire n'importe quoi, mais avec un ordre particulier, avec une mission particulière. Donc, il établit l'ordre au sein des églises. Et huitièmement, le gouvernement de l'église locale, c'est Christ, c'est sa prérogative. C'est pas à nous de modifier, de réinventer, d'ajuster ce que devrait être le gouvernement de l'église selon nos générations. Mais c'est Christ qui, par sa parole, établit tout cela. Donc, l'appel, l'institution, l'ordre et le gouvernement de l'Église procèdent du pouvoir qu'il a reçu. Donc, ça nous indique que l'Église, bien, c'est d'abord sa création, c'est son œuvre, c'est lui qui bâtit l'Église. Et notre rôle, c'est de découvrir dans sa parole comment est-ce qu'il veut qu'elle soit pour observer ses ordonnances, plutôt que d'essayer de réinventer l'Église. Et donc ici, on voit la jonction entre le règne de Christ sur l'Église universelle et sa manifestation dans l'Église locale. Christ règne sur l'Église au singulier, l'Église universelle, mais comme cette Église universelle n'est pas centralisée sur la terre avec une seule organisation ou une seule institution, qui centraliserait ce pouvoir. La manifestation de l'Église locale, de l'Église universelle, on a dit, c'est par les saints visibles qui se réunissent en assemblée locale. Donc, la manifestation visible de l'Église invisible, c'est l'Église locale. Et le règne de Christ sur l'Église universelle se traduit par l'Église locale, ce qui veut dire que chaque congrégation n'est pas sous une hiérarchie de pouvoir jusqu'à Christ, comme dans certains systèmes ecclésiologiques, où on a une paroisse qui est sous un évêché, qui est sous, ainsi de suite, là, on monte des étages pour arriver au pape, pour arriver à l'Église ou arriver dans d'autres structures ecclésiales, pour éventuellement être sous la gouvernance de Christ. Nous croyons que chaque congrégation, dans cette ecclésiologie particulière que nous confessons, est directement sous Christ, relève directement du pouvoir royal de Jésus, et que Jésus est présent au milieu de chaque église, selon sa promesse. Matthieu 18, 20, quand il dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom », c'est dans un contexte formel d'organisation d'église où l'église exerce le pouvoir des clés du royaume par la discipline ecclésiale. Et Jésus dit qu'il est au milieu des disciples pour faire tout ce qu'ils auront déclaré en son nom, s'ils le font fidèlement à sa parole. C'est un pouvoir déclaratif que l'église, c'est pas pour créer le salut, mais c'est tout simplement pour déclarer ce qui est déjà déclaré dans la parole. Mais quand on le fait fidèlement selon la parole de Christ, il est avec nous. Et c'est aussi l'image que Apocalypse 2 à 3 nous montre, avec Jésus qui marche au milieu des chandeliers, des sept chandeliers qui représentent les sept églises. Et on voit Jésus qui donne des instructions à des églises locales spécifiquement, qui marche au milieu de ces églises-là, qui frappe aux portes de ces églises-là. Donc, nous devons comprendre que ce grand privilège, dans le fond, lorsqu'on est une église locale, même si on a l'impression d'être tout petit, dans le sens quand on regarde la grande église universelle, ben chaque église a le privilège que Christ la gouverne, qu'elle soit directement placée sous l'autorité du Seigneur et que Christ marche avec cette Église et est présent au milieu de cette Église. Après que la confession ait affirmé ces choses, a affirmé sa seigneurie, a fait ses liens entre le règne de Christ sur l'Église universelle et comment ça se décline vers l'appel et l'institution et l'ordre et le gouvernement dans l'Église locale, la confession continue en niant le modèle embrassé par l'Église catholique romaine pour l'Église universelle sous le pape. Le pape, en fait, il est un peu le représentant, il est la tête de cette Église qui prétend être l'Église universelle, c'est ce que veut dire le mot catholique. On croit que le mot est utile, on l'a même dans notre confession, paragraphe 1, mais ce n'est pas catholique romain qu'on utilise, on parle de l'Église universelle de Christ, mais l'Église romaine prétend être la vraie Église universelle et que c'est le pape qui, en quelque sorte, scelle par son office l'unité des chrétiens. Et c'est lui le vrai représentant de Christ sur la terre. Donc, l'Église catholique romaine prétend que l'autorité de Christ, parce qu'elle ne voit pas l'autorité du pape comme étant en rivalité ou étant un deuxième époux, elle le voit plutôt comme le pape, comme représentant de l'autorité de Christ, que Christ administre son autorité sur la terre par le biais d'un vicaire, d'un représentant, dans lequel il a investi son pouvoir royal. Et c'est pour ça que le pape a des insignes royaux, qu'il porte une couronne, qu'il est même un chef d'État, parce que dans cette conception, bien, l'Église est un État au sein d'autres États, d'autres nations. Et donc, le pape est une figure à la fois royale et sacerdotale et prophétique qui est vicaire, représentant de Christ. Et généralement, le texte sur lequel les catholiques se basent pour cette vision de leur ecclésiologie, c'est le pouvoir que Jésus confie à Pierre dans Matthieu 16, verset 18. Vous pouvez tourner parce que c'est un texte clé pour toute ecclésiologie. Donc, l'idée, c'est que ce pouvoir qui a été donné à l'apôtre Pierre se transmet depuis Pierre à chaque évêque de Rome successivement. Donc, Matthieu 16, verset 18, après que Pierre ait confessé de sa bouche, quand Jésus a demandé qui il était, qu'il a dit qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, il dit « Moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alors, laissons de côté ce que ça implique pour l'autorité de Pierre et qu'est-ce que Jésus veut dire, qu'est-ce qu'il désigne en disant qu'il va bâtir sur ce roc. Est-ce qu'il parle de Pierre? Est-ce qu'il parle de la confession de Pierre? Notons simplement que dans le Nouveau Testament, peu importe le rôle que Pierre ait joué, puis on peut reconnaître que c'était un rôle unique, d'abord en tant qu'apôtre, mais aussi il semble avoir une prééminence au sein des apôtres. Nous ne voyons dans le Nouveau Testament aucune succession papale ou aucune succession de l'office pétrinien, l'office que Pierre a reçu, à quelqu'un, à un successeur après lui. Il est vrai que le Nouveau Testament enseigne que les apôtres ont reçu de Christ l'autorité de fonder son Église sur la terre. Jésus dit « Je bâtirai mon Église », mais concrètement, il l'a fait au travers du ministère apostolique. Mais ces apôtres ont fondé l'Église sur Christ, qui est la pierre angulaire. Et ça m'a frappé aujourd'hui, cette connexion entre Éphésiens 2, 20 et Matthieu 16, 18, que nous venons de lire, où Jésus dit à Pierre que sur ce roc, sur ce Petra, il bâtira son Église. Il y a un jeu de mots dans le grec, il dit « Tu es Petros, un caillou, et sur ce Petra, sur ce roc, je bâtirai mon Église. » Je ne pense pas que c'est Pierre, le Petra, mais c'est Christ. Christ qui vient d'être confessé par Pierre parce qu'on voit dans Éphésiens 2, 20, le roc en question, le Petra sur lequel l'Église est fondée, l'apôtre Paul dit « Vous avez été édifié, ou fondé, ou bâti, ou construit, en parlant de l'Église, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, vous voyez le lien entre le roc sur lequel l'Église est fondée et ce qui est dit ici. C'est Christ qui est la pierre angulaire, c'est pas l'office apostolique, mais c'est par le biais du fondement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, inspiré par Christ et dirigé d'une façon infaillible dans leurs écrits pour fonder l'Église sur la terre, que l'Église est fondée. Donc, la règle apostolique n'est pas consignée dans un office qui se transmettrait de personne en personne, mais la règle apostolique est consignée dans l'écrit apostolique, dans l'Écriture sainte. Et c'est ce que Pierre lui-même nous dit lorsqu'il est près de sa mort et qu'il sait qu'il va quitter cette tente, comme il le dit, parce que le Seigneur lui a fait savoir qu'il mourrait en martyr. Il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et ce qu'il fait pour que l'Église soit fondée, qu'elle se souvienne des fondements de l'Évangile qui ont été établis par les apôtres, ce n'est pas de transmettre son office à quelqu'un d'autre. Il n'impose pas les mains à un autre apôtre après lui. Tout de suite après, il dit, dans les versets qui suivent, que c'est par la parole prophétique. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne le jour apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, l'apôtre Pierre n'amène pas le projecteur sur lui ou sur son office, mais sur la parole de Dieu comme une lampe, comme la parole prophétique. Il inclut non seulement les écrits de l'Ancien Testament, mais dans ses épîtres, il va citer l'apôtre Paul comme étant la parole de Dieu, l'Écriture sainte, à la fin de cette deuxième épître. Et donc, l'autorité apostolique, la règle apostolique, l'enseignement des apôtres par lequel on a la juste compréhension de l'Évangile et de Christ, ce n'est pas dans un office transmis, c'est dans un écrit transmis qu'on l'obtient, qui est la règle de notre foi, le fondement de notre foi, et c'est ce qu'on confesse dans notre premier chapitre sur l'Écriture sainte. Donc, non seulement il manque à la doctrine catholique romaine un fondement biblique, un fondement scripturaire pour subsister, parce que peu importe ce qui est dit à Pierre, on ne voit nulle part le Nouveau Testament transmettre l'autorité de Pierre à d'autres. Mais positivement, l'Écriture nous donne des éléments pour comprendre que ce n'est pas un office papal qui a été établi en lui, mais aussi l'Écriture ajoute des éléments sur la position que Jésus occupe, qui ne peut pas être partagée, qui ne peut pas avoir de vicaire, qui serait un roi ou un souverain sacrificateur ou un prophète sur l'Église, comme le prétend le papisme. L'Église, l'Écriture affirme qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2,5, Jésus-Christ homme. Et donc, c'est un peu étrange d'instituer un médiateur du médiateur. Jésus n'a pas besoin d'un médiateur, n'a pas besoin d'un vicaire. Et bien qu'il ne soit pas physiquement présent sur la terre, il est présent par le Saint-Esprit. Donc, le vicaire de Christ sur la terre, c'est le Saint-Esprit par lequel Jésus est présent au milieu de son Église. Et c'est comme ça dans Jean 14, 15 et 16 qu'il enseigne qu'il va rester auprès de ses disciples, même s'il s'en va d'eux puis ça les attriste. Mais ça vous est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer l'Esprit avec lequel il fait un. Comme il fait un avec le Père, il fait un avec l'Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, le Père et le Fils habitent en lui. Donc, Jésus n'a pas besoin d'un médiateur pour faire son œuvre auprès de l'Église. Il est lui-même le médiateur entre Dieu et les hommes en tant qu'homme. Donc, il n'y a pas un médiateur d'un médiateur. Et comme médiateur, les offices christiques, c'est-à-dire que Christ est un prophète, Christ est un prêtre et Christ est un roi, on a dit au chapitre 8, paragraphe 9 de notre confession, que ces offices ne peuvent en totalité ou en partie être transférés de lui à qui que ce soit d'autre. Alors, c'est un peu ce qui est prétendu. Et eux vont dire, nous, on n'usurpe pas ou on n'ajoute pas un autre pouvoir qui ne serait pas celui de Christ. Mais le pape fait simplement assumer ce rôle royal du Christ. Mais l'Écriture même dit, à tout le moins pour la question du sacerdoce, qu'il est intransmissible. Hébreux 7, 24 nous dit que parce que Jésus demeure éternellement, ben, il n'y a pas besoin que quelqu'un administre le sacerdoce en sa position. Il est établi éternellement comme souverain sacrificateur sur la maison de Dieu. Il n'y a pas besoin d'un médiateur, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui le fasse à sa place. Puis il est présent dans chaque église locale pour assurer la médiation entre l'Église et Dieu. Donc, c'est pour ça que son sacerdoce est non transmissible. Contrairement au sacerdoce d'Aaron ou Lévitique, où chaque fois que le grand prêtre mourait, il devait être remplacé, donc c'était un sacerdoce transmissible. Mais Jésus n'est pas mort. Ben, il est mort, mais il est ressuscité puis il est vivant. Et il demeure éternellement. Donc, et il est présent. Alors, si on dit qu'il y a un vicaire comme ça, c'est comme pratiquement de nier sa présence. Et donc, ces titres à Jésus sont intransmissibles, ces titres de roi, de prophète et de prêtre sont intransmissibles. Et si quelqu'un clame ces titres-là, comme le fait le pape, ben nous devons le voir comme un usurpateur, parce qu'il prétend utiliser un pouvoir qui ne lui a jamais été confié et qui ne peut pas être confié à qui que ce soit, qui est qui est réservé à Christ exclusivement. Et c'est là où la confession fait son affirmation controversée de dire que le pape, c'est l'Antichrist. Et donc, on voit que la confession ne nie pas que la Bible parle bel et bien du pape, mais elle ne lui attribue pas l'office de vicaire de Christ sur la terre, mais plutôt l'office de l'Antichrist. Elle déclare « cet Antichrist, cet homme de péché, fils de perdition, qui se dresse lui-même dans l'Église contre Christ et contre tout ce qui est nommé Dieu. » Alors, c'était un point de vue commun chez les protestants du 16e et du 17e siècle, presque universel chez tous les protestants, de voir le pape comme étant l'Antichrist. Pas un pape en particulier, mais de voir le papisme, de voir l'office papal comme étant antichrist et même comme étant l'antichrist, c'est-à-dire que ce que l'Écriture anticipait, prévoyait qu'il allait s'introduire, s'infiltrer dans l'Église, qu'il allait amener une apostasie, qu'il allait usurper le pouvoir de Dieu et prendre sa place, bien que c'était d'avance le pouvoir papal qui allait être comme une sorte de réappropriation au sein de l'Église, du pouvoir romain, du pouvoir de l'empereur romain qui allait, un peu par le paganisme romain, qui allait se raviver éventuellement sous une forme antichrist au sein de l'Église. Donc, les protestants voient l'office papal comme étant l'œuvre du diable pour corrompre l'Église de l'intérieur. Le diable a plusieurs stratégies pour essayer de polluer l'Église de l'extérieur par le monde, mais parfois aussi en l'infiltrant de l'intérieur. Plusieurs papes, finalement, se sont montrés dignes de ce titre d'Antichrist par leur conduite, leur immoralité, leur méchanceté. Même si on peut noter des exceptions notoires de papes qui ont été vertueux, qui ont été orthodoxes, qui ont bien agi, mais de façon générale, et je pense que plusieurs protestants pouvaient reconnaître que qu'ils pouvaient avoir individuellement de bons papes sans que l'office papal soit quelque chose qui vienne de Dieu, mais plutôt une œuvre diabolique. Alors, malgré ces explications, plusieurs sont mal à l'aise avec cette affirmation. Parce que, un, on croit que ce n'est pas la bonne interprétation de 2 Thessaloniciens 2, 2 à 9, où il est question de l'impie, de l'homme de péché. Et aussi parce que, disons-le, ça nuit un petit peu au dialogue interreligieux avec les catholiques. Mais pourtant, ils aiment bien le bouquin Le voyage du pèlerin, et le voyage du pèlerin, si vous lisez attentivement, présente le pape comme l'antichrist. Alors c'est drôle, c'est étonnant que les catholiques, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec cette partie-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Bien, les églises confessionnelles qui souscrivent et qui exigent de leurs officiers une pleine souscription, soit à la confession de foi de Westminster, qui a aussi cette affirmation, ou à la deuxième confession de foi baptiste de Londres de 1689, ont généralement trois options sur ce point-là. Soit qu'elles autorisent une exception, donc qu'on confesse l'ensemble de la confession, mais qu'on prenne une exception sur ce point. C'est ce que notre frère a fait dimanche dernier. Et donc, ça ne compromet pas une pleine souscription à la confession. D'autres préfèrent confesser ce point, mais en le qualifiant, en précisant qu'on reconnaît que la papauté, c'est une forme d'Antichrist, sans nécessairement que le texte de 2 Thessaloniciens réfère spécifiquement à la papauté. Ce n'était pas forcément une prophétie pour ça. Donc, on dit oui, ce n'est pas un office qui vient de Dieu. Ça a égaré des gens, ça a contribué à corrompre l'Église. Mais on ne devrait pas nécessairement mettre ça dans une confession de foi de cette façon-là. Et la troisième option, bien, c'est une pleine souscription à ce qui est dit, que c'est effectivement ce que Paul avait en vue, qu'il allait venir un temps où il y aurait au sein de l'Église un pouvoir étranger à celle-ci. Il n'appelle pas l'Église, il parle du temple de Dieu, mais qui est interprété comme étant l'Église ici par les protestants, c'est un pouvoir qui allait détourner les hommes de la vraie foi. Alors, si vous voulez savoir, je me situe un peu entre la deuxième et la troisième option. Je ne prends pas exception sur le paragraphe 4. Je le confesse, c'est ça. Donc, si ça vous intéresse. En conclusion, donc, peu importe notre position, notre compréhension de la papauté et du pape actuel ou de tous les papes historiquement, et notre appréciation de cette institution, ben, il faut reconnaître que l'Écriture nous dit qu'il y aurait des loups cruels qui allaient s'introduire et qui se sont introduits dans l'Église. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'ils ne vont pas surgir de l'extérieur forcément, qu'ils vont venir du milieu de vous. C'est ce que Paul écrit dans Actes, plutôt ce qu'il dit, c'est Luc qui l'écrit dans Actes 20, 29 et 30. Il dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Bon, ça ne parle pas spécifiquement du pape ici, mais ça nous parle de toutes sortes d'hérétiques qui ont surgi, mais qui ne viennent pas de l'extérieur de l'Église, de l'intérieur, parce que c'est une des façons, des tactiques du diable d'infiltrer de l'intérieur. Alors, si on croit que le papisme ne vient pas de Dieu, que ce n'est pas une institution qu'on retrouve dans l'Écriture, bien, elle vient de où? Elle vient des hommes et certainement d'une influence du diable. En tout cas, quand on regarde historiquement comment cette institution peut être utilisée pour faire du mal, pour détourner de la vérité, je ne dis pas qu'il y aurait des nuances à apporter, bien sûr. Par moments, il y a eu des papes qui ont défendu l'orthodoxie. Je parle au début, dans les premiers siècles, ceux qu'on identifie comme des papes n'avaient pas cette conscience d'eux-mêmes d'être l'évêque de Rome comme ça vient dans le christianisme plus tardif. C'est plus tard, c'est surtout même après le schisme entre l'Orient et l'Occident en 1054, donc il y a presque un millénaire de passé, et arrivé avec la réforme aussi qui va amplifier un peu cette posture là, du pape et de l'infaillibilité papale. Mais disons que les premiers papes, qu'on n'appelait pas des papes, étaient beaucoup plus modestes, étaient beaucoup plus dans la ligne de l'orthodoxie. C'est rétroactivement, quand on a comme voulu donner beaucoup de crédit à cette institution-là, qu'on a essayé rétroactivement d'identifier toute la ligne des papes jusqu'à Pierre, mais eux-mêmes ne se seraient pas vus ainsi. Mais donc, ce que l'Écriture nous dit, ben, c'est que quand le Seigneur va venir à son avènement, il va faire payer les imposteurs, et qu'en attendant, on doit prendre garde, et qu'on doit, ce que Paul tout de suite après recommande, après avoir dit qu'il y aura des loups cruels qui n'épargnent pas le troupeau, il les recommande à la parole de sa grâce, à la parole de Dieu et à la parole de sa grâce, pour être édifié, pour obtenir l'héritage. Donc, gardons-nous des traditions humaines et enracinons-nous dans la parole de sa grâce et dans la grâce de sa parole, dans l'Évangile. Amen.